Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Fin de match complètement folle ici au King Power. Oh ! Et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussi.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la Première Ligue, le plus beau des championnats au monde. Un podcast aux couleurs bleues et rouges, aux couleurs de City et de Liverpool, ces deux couleurs qui évoquent tant de rivalités en Angleterre. Le bleu de City, Chelsea, Everton et tant d'autres face au rouge d'un Liverpool FC United, Nottingham Forest ou tant d'autres. Justement, City-Liverpool, une rivalité qui compte dans ce championnat et un match qui comptera dans cette saison 2021-2022. Des briefs complets autour de cette rencontre et de ses conséquences avec Flora Moussi. Bonjour Flora.
Salut à tous.
Bonjour Loïc Moreau.
Bonjour.
Bonjour Eric Croix qui avait la chance d'être commentaire de ce match.
Bonjour les amis.
Un match nul 2-2 qui a été tout sauf nul, avec tant d'histoires, tant de joueurs, tant de moments. PL Zone, le podcast, épisode 17, spécial City-Liverpool. C'est parti.
C'est joué vite, Eric, avec Kevin De Bruyne qui efface Fabinho. La frappe de De Bruyne, le poteau avec Kevin De Bruyne, et déjà Manchester City devant. Grande affiche, grand match. C'est parti, tambour battant, avec ce but de Kevin De Bruyne. 1-0.
On peut pas espérer mieux de marquer un but tout de suite dans ce match.
Robertson arrive, le centre de Robertson avec Trent Alexander-Arnold, et l'égalisation de Diogo Jota pour Liverpool. La réponse des Reds est immédiate. 12e, 13e minute, Liverpool est déjà revenu. Un partout dans ce match totalement fou. Cancelo, quel ballon! Quel ballon de Cancelo! Et le but de Gabriel Jesus! Quelle passe! Quelle passe de Cancelo! La défense de Liverpool totalement arrêtée. Jesus lui en mouvement et il fait mouche. 2-1 pour Manchester City, 36e minute. Trent Alexander-Arnold avec Mossala. Mossala, il est beau, magnifique ballon. Salah pour Mané dans la lucarne. Sadio Mané, 49 secondes en deuxième mi-temps. Le duo magique des Reds, Mohamed Salah, Sadio Mané a frappé et Liverpool revient. Quelle partie de football, quel match d'anthologie.
Ah oui, quel match d'anthologie, effectivement. Un match, je le dis, qui comptera clairement dans cette saison 2021-2022. Eric Roy, vous étiez aux côtés de Stéphane Guy hier et on a assisté à un très grand spectacle même.
Eh oui, on s'attendait à un grand spectacle. Quand on a deux grandes équipes, en général, il y a du spectacle. Après, on a toujours un petit peu peur parce que des fois, les grandes affiches n'accouchent pas forcément de ce qu'on attend. Mais là, on peut dire qu'on a été servi à tous les niveaux, que ce soit par rapport à des buts, par rapport à du spectacle, par rapport à de l'intensité. Enfin, voilà, tout ce qu'on aime dans un match de foot, au respect aussi, parce qu'on a vu que malgré tout, même si c'était un match, il y avait une pression énorme. Mais voilà, tout le monde a bien géré ses émotions, que ce soit les entraîneurs, mais également les joueurs. On ne peut pas considérer qu'il y a eu... ça a été un duel au sommet dans un vrai bon esprit sportif. Donc tout ça, voilà, tout ça nous fait aimer le foot.
C'est vrai, Flora, que j'ai envie de dire, il y avait tous les ingrédients positifs, parce qu'il n'y avait pas forcément de phrases avant match, hein, ou de choses qu'on a pu voir à l'entête, de mauvaises actions ou autres sur le terrain. Ça a été que du positif, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça, parce que souvent, bah, il y a tellement de vraies rivalités. Tu en as parlé un petit peu plus tôt, hein, dans ce championnat anglais. Des fois, il y a des matchs, ça dégénère un petit peu parce que justement, la rivalité entre l'un et l'autre, dans le public, entre les supporters, entre les coachs, il y a des guerres avant match en conférence de presse. Là, non, en fait, c'était quand on parle de choc et de bataille sur le terrain, c'était vraiment purement sportif. kiff, en fait. C'est-à-dire que nous, on s'est régalé parce que effectivement, sportivement, il y a les deux meilleures équipes d'Angleterre, deux des meilleures équipes d'Europe qui se disputent la Première Ligue depuis des années maintenant, qui répondent présents. Et c'est ça qui est dur, parce que pour avoir un grand match, il ne suffit pas d'avoir une grande équipe. Il faut que les deux ils soient au rendez-vous en même temps le jour J. Même si, oui, City était un petit peu au-dessus pour moi dans ce match sur Liverpool, finalement, ça finit sur un 2-2. Et on se dit... Waouh, moi, en fait, on a tellement de chance d'avoir ces deux équipes dans le championnat aujourd'hui à un tel niveau et qui arrivent justement à se transcender l'une et l'autre et à se pousser l'une et l'autre à être encore meilleures chaque saison.
Alors Eric, je prolonge mon propos. Est-ce que vous avez eu l'impression d'assister à un grand match dans ce stade ? Je dis dans ce stade l'Etihad parce que parfois, l'Etihad n'est pas forcément connu pour avoir une ambiance de dingue.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'ambiance à l'Etihad qu'à Anfield, par exemple. Ça, c'est évident. Maintenant... Oui, c'était quand même un grand match dans un grand stade, parce que l'Etihad reste un grand stade de foot. Et puis, il y avait forcément de l'ambiance maintenant. Et il est évident que ça ne remplacera pas certaines ambiances de stade encore plus chaud en Angleterre. Mais en tous les cas, il y avait quand même tous les ingrédients pour pouvoir vivre une belle après-midi.
Bon, le stade s'est quasiment mis au niveau de l'affiche, on va le dire comme cela. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Eric, aussi, parmi les éléments positifs de cette partie, l'intensité que l'on a pu voir et observer dans cette rencontre. Notamment, tiens, cette séquence, ça dure 10 secondes, on est à peu près à l'heure de jeu. Virgil van Dijk vient tout juste d'arrêter Raheem Sterling.
Il a fait l'erreur, Sterling, de perdre sa vitesse et en plus de se rapprocher de Van Dijk dès qu'il est en duel ou un contre un.
C'est reparti déjà, Eric, avec Mohamed Salah. On a à peine le temps d'analyser une action que les nôtres qui se présentent à nous.
Mais ouais, Flora, ça allait d'un but à l'autre, ça s'arrêtait pas. Les équipes étaient coupées parfois en deux, parfois en trois. C'était n'importe quoi, entre guillemets.
Ouais, mais on a vu de toute façon les joueurs terminer bien fatigués à la fin, à la fin du match. Ils ont mis du temps à quitter la pelouse. Bon, déjà parce que c'était un match dingue aussi pour eux, qu'ils avaient envie d'en profiter un petit peu. Puis la pression redescend à ce moment-là. Mais l'intensité, elle était folle. De toute façon, on l'a vu tout de suite parce qu'il y a eu le but de City et 10 minutes après, il y a eu le but de Liverpool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps en fait, pour City d'installer vraiment sa domination outrageusement, finalement, parce que Liverpool est revenu tellement vite qu'on s'est dit « Ah ouais, ok. Si, » De toute façon, c'est sûr, si pour avoir ce grand match, il fallait que Liverpool réponde rapidement au risque que City commence à développer son jeu et écrase un peu tout sur son passage. Mais d'avoir cette réponse immédiate, et c'était du tac au tac en fait à chaque fois. Dès qu'il y avait une action, ça répondait de l'autre côté. Et c'est ça qui est fou parce qu'arriver à faire ça sur 45 minutes, il y a des équipes qui arrivent. Arriver à avoir ce pressing, cette intensité, mais le faire sur 90 minutes, c'est quand même impressionnant.
Et avoir les deux équipes qui le font sur 90 minutes, c'est ça qui est épatant, Eric.
Et c'est ça, parce qu'en fait, souvent, on a des confrontations avec des oppositions de style. Hein. Bon, on l'a vu en Champions League récemment, où on a vu l'Atlético Madrid vraiment attendre City dans ses 20-30 derniers mètres. Là, l'opposition de style, elle n'y a pas été, parce que les deux ont essayé d'imposer leur football et les deux ont essayé constamment, dès que la perte du ballon, d'aller presser l'adversaire. Donc, c'était pressing contre pressing, qui faisait justement qu'il y avait tellement d'intensité dans les duels qu'il y avait bien sûr des erreurs techniques provoqué par l'adversaire et du coup qui trouvait des équipes quelquefois déséquilibrées par rapport à leur ressortie du ballon. Comme ils perdent le ballon rapidement, c'était tout de suite une situation intéressante pour une équipe, et puis 10 secondes après c'était à nouveau une situation pour l'adversaire dans le camp opposé. Donc voilà, le ballon vivait vraiment tout le temps, sans arrêt, et c'est vrai que les joueurs ont eu besoin, on l'a senti dans les 5-10 premières minutes de 5-10 dernières minutes de la première mi-temps, on a senti qu'ils avaient besoin d'aller se reposer un petit peu. Et après, les 20 dernières minutes du match, on a senti vraiment qu'ils étaient quand même au bout et qu'il y avait à ce moment-là vraiment des espaces qui s'ouvraient et on sentait qu'à tout moment, il pouvait y avoir un chaos dans l'air.
Loïc Moreau, est-ce qu'en chiffres, l'intensité est visible ?
Oui, Salim, tout à fait. Elle est très visible. Si on met de côté Leeds, on sait que Leeds, hein, on l'a dit depuis le début de la saison en PL, c'est une équipe qui met énormément d'intensité.
Encore plus avec
c'est pas
ça, ouais.
Voilà, exactement. Donc, c'est pas étonnant de les voir truster les premières places. Mais si on les met de côté, ce match Manchester City-Liverpool, c'est le deuxième en termes de nombre de courses à haute intensité. Je rappelle, une course à haute intensité au-dessus de 22 km/h. Donc, on est à 345 sprints faits durant cette rencontre. Il n'y a que Manchester United South qui en a vu davantage. Donc oui, en termes d'intensité, c'était clairement ça se traduit clairement en chiffres. Après, c'est vrai que le côté un petit peu paradoxal, c'est qu'il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, il n'y a pas eu tant de tirs que ça, 17 seulement tentés. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne en PL cette saison, c'est 25. Donc effectivement, il y a eu de l'intensité, il y a eu des buts. Après, il n'y a pas eu tant de situations que ça de part et d'autre. Et au final, ce score de parité, on va dire fait ou ne fait pas les affaires ni de City ni de Liverpool.
Ouais, on en parlera de ce dernier aspect dans un instant. Mais Eric, ça vous surprend ça? Un tel match avec de tels joueurs, avec une telle intensité, on l'a dit, et au final, peu d'occasions dans cette partie.
Parce qu'on ne laisse pas l'équipe s'organiser en face. Pour trouver des possibilités de frappe, en tous les cas des positions de frappe, il faut laisser l'adversaire frapper ou en tous les cas s'organiser. Et là, comme les deux équipes étaient sans cesse dans le harcèlement du porteur du ballon, sans cesse toujours très près de l'adversaire, il y a eu beaucoup plus de difficultés pour mettre les joueurs en position et notamment en trouver des bonnes positions. Après, à mon sens, et moi j'en dénote comme ça, des occasions un peu plus franches quand même du côté de City. On se rappelle du premier duel de Alisson qui le sauve, je crois que c'est face Jesus. À Sterling, c'est Jesus qui délivre un bon ballon, un bon centre au cordeau. C'est dès le début du match. Après, il y a des grosses occasions quand même avec la dernière, celle de Mahrez, sur le bon service de De Bruyne. Il y a le but qui est refusé à Sterling pour un micro hors-jeu de quelques centimètres.
Un demi-orteil. Voilà,
très cher à Manu Petit. Donc voilà, tout ça fait que dans l'ensemble, il y a eu quand même des plus grosses occasions pour City. Liverpool a joué crânement sa chance malgré tout. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, bon, ça fait un match très décousu. Mais en même temps, parce que justement, les deux équipes, elles voulaient imposer leur football.
Un match de boxe, c'est pas moi qui le dis, mais Jürgen Klopp.
On peut dire que c'était comme un combat de boxe. Si l'un baissait la garde d'une seule seconde, il se prenait un gros coup. Le temps de s'en remettre et c'est l'autre équipe qui prenait un coup. J'ai aimé beaucoup de choses. Nous n'avons jamais été aussi proches d'eux. Quand nous avons joué au football, que nous contrôlions le jeu et que nous faisions des passes simples en les faisant courir, nous avons vraiment été dangereux. C'est comme ça que nous avons marqué nos buts.
On écoutera Kevin De Bruyne qui n'est pas dans le même ton. Hein. Dans quelques minutes, vous le verrez. Mais c'est vrai que ça s'est joué à coup pour coup, Flora, dans cette partie. C'est ça qui aussi nous a permis d'assister à un spectacle de dingue, en fait.
Oui, mais c'est ce qui est fort. Alors, et cette image du combat de boxe, je crois qu'Eric l'avait prise aussi pendant le...
C'est vrai.
Pendant, voilà, on rend César.
Tout à fait, tout à fait. On rend
César
ce qui est à César. Tu m'écoutes hein, pendant les
matchs. Évidemment, hein, Eric, je t'écoute religieusement.
Je vois qu'il y en a une qui suit. Ou...
c'est, qui nous parle? Je ne sais pas qui.
Je ne sais pas qui est cette personne.
Non, mais c'est bien que tu l'aies dit, parce que je n'aurais pas osé le dire. Je l'ai dit comme Jürgen Klopp, les gens, comme ils vont pas réécouter la diffusion, ils m'auraient pris pour un mytho. Mais c'est vrai parce que c'est ce que ça donnait comme impression. C'est vraiment ça qu'on ressentait parce que et dès qu'il y a une équipe qui baissait un peu la garde, tout de suite on sentait qu'elle pouvait être en difficulté. Donc ça, c'était vraiment très criant.
Ouais, et puis c'est surtout le côté combat de boxe. On peut aussi retenir le fair play qu'il y a derrière, en fait, finalement, dans ces images-là. Oui. Et ils se tombent dans les bras, en fait, Klopp et Guardiola à la fin. Il y avait toujours eu des... C'est un peu, voilà, c'est... Deux adversaires qui s'attendent pendant des mois. Ils savent que tout va se jouer sur ce match-là ou pas, mais en tout cas, c'est la personnification de ce match. Et finalement, même si pendant tout le match, ils sont adversaires, ils sont rivaux, ils sont toujours hein, rivaux pour le titre plus que jamais, et ben finalement, ils sont restés longtemps à la fin du match. Les joueurs de City avec ceux de Liverpool à discuter entre eux, Guardiola qui enlace Klopp. Et c'est ça aussi le côté du combat de boxe, c'est qu'à la fin, oui, on s'en est mis plein la tête pendant 90 minutes, mais on serre la main et puis bonne chance pour la fin de la saison.
Tiens, personnalisons quelque peu désormais la rencontre, car ce qu'on peut en sortir des joueurs, des individualités, top ou pas d'ailleurs. Bon, le top forcément, Flora, on l'a dit hier, on le rappelle aujourd'hui avec un jour de recul, Kevin De Bruyne, il a illuminé le début, le milieu, la fin du match, bref, toute la rencontre.
Ouais, et on pouvait se poser quand même la question, alors pas du tout remettre en cause le talent de Kevin De Bruyne, loin de là, c'était juste qu'il ne fait pas sa meilleure saison non plus, le Belge, donc on se demandait est-ce qu'il va être capable d'être au rendez-vous sur ce match-là, et c'est ça la force des grands joueurs, parce que évidemment qu'il a été au rendez-vous très très vite avec ce but, mais moi, l'image que j'ai en tête de Kevin De Bruyne, c'est cette passe incroyable pour Mahrez à la fin de match avec l'énorme occasion qu'il y a, elle est juste magnifique. Magnifique cette passe.
Après 90 minutes, donc
voilà,
après toute
ça.
La fatigue engendrée.
Il y a toute la course, il y a la course, et puis il a la lucidité de voir l'appel de Mahrez, de faire la bonne passe qui passe juste derrière les deux défenseurs et qui arrive dans les pieds enfin, de l'Algérien. Je trouve ça mais juste fantastique.
Ouais, et c'est vrai, Eric Roy, vous qui étiez plus chanceux en étant au stade à voir ses performances, c'est vrai qu'il courait partout, j'ai envie de dire. Il a été épatant à ce niveau-là.
Ouais, c'est magnifiquement décrit par Flora, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, dans cette action, il y a un peu tout, c'est-à-dire que Il y a bien sûr la dimension technique du joueur, du grand joueur qu'il est, avec cette capacité, après avoir effectivement 95 minutes dans les jambes, avoir cette justesse de passe. On sait que c'est un passeur exceptionnel. Mais après, il y a toute la dimension athlétique, parce qu'avant, il y a sa course. Il y a au moins 30-40 mètres où il récupère le ballon. Il dépose, je crois que c'est Fabinho, et puis après, derrière, il trouve cet angle de passe. Donc voilà, tout est dit là. Alors ça, c'est avec le ballon. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un travail chez lui qui est exceptionnel, qu'on ne voit peut-être pas tout le temps à l'écran, mais c'est le premier à déclencher le pressing quand son équipe n'a pas le ballon. C'est-à-dire que c'est un joueur complet, c'est un joueur moderne, comme tous les entraîneurs, je pense, aimeraient en avoir. Un joueur qui est capable de marquer des buts, de faire des passes, de mettre l'équipe dans le tempo quand elle doit récupérer le ballon. Voilà, donc je ne sais pas ce qui lui manque. La seule chose qui lui a manqué, et Flora avait raison, c'est pendant les 6 premiers mois, il a eu quelques petits pépins, quelques petites blessures, et que du coup, comme tout grand joueur, quand tu es un petit peu moins bien et pas au top physiquement, bah, tu ne peux pas exprimer tout ton potentiel. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été un petit peu en retrait. Mais il revient dans le meilleur des moments pour la fin de la saison pour aller chercher le titre avec lui.
Le Belge qui est sur 4 buts marqués en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce match, il a été si impressionnant que ça aussi, Loïc ?
Bah, déjà, tu le disais, 4 buteurs sur ses 4 derniers matchs en toutes compétitions confondues, c'est une première pour lui à City. Donc c'est déjà assez exceptionnel pour être souligné. Ensuite, effectivement, même s'il est moins passeur, en fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il est plus buteur cette saison en PL qu'il n'est passeur. Et on a connu De Bruyne, surtout passeur, effectivement. Là, regardez, il a marqué son 11e but en PL cette saison. C'est sa deuxième saison la plus prolifique en termes de buts derrière 2019-2020, où il en a même marqué 13. Donc du coup, et on l'a vu hier, voilà, le match démarre, bam, but. Derrière, ça va très vite. En chiffres, Salim, oui, il a été en fait dans ses standards. Encore une fois, hier, il crée 2 occasions, il court énormément, il fait beaucoup d'efforts, et il est décisif, encore une fois, et c'est ça qu'on va retenir de lui, ce que disait Flora, l'importance des grands joueurs dans les grands matchs. Ça peut paraître un peu cliché, mais effectivement, c'est très important, surtout que Manchester City va avoir besoin d'un Kevin De Bruyne en forme pour la fin de saison, plus que jamais.
Tiens, vous entendez, après, allez-y Eric.
Après, il y a un truc important que je voulais juste dire. Le passeur, c'est toujours un petit peu problématique pour lui parce qu'il est toujours dépendant d'un garçon qui doit la mettre au fond ou pas.
C'est vrai.
La problématique du match d'hier, c'est que Kevin De Bruyne, sur ce match-là, il peut faire 2 voire 3 passes décisives hier dans le match. Si ses partenaires sont un peu plus adroits ou partent au bon moment sur des hors-jeux qui sont millimétrés, et notamment Sterling, ça peut lui faire déjà 2 passes décisives. Donc il y a quelquefois des joueurs qui ne sont pas récompensés parce qu'ils font potentiellement des vraies passes décisives et qui ne sont pas récompensés parce que le joueur qui doit finir ne le fait pas. Donc on comptabilise que quand le joueur marque, mais on pourrait comptabiliser aussi toutes les possibilités où un joueur comme De Bruyne offre des caviars, des galettes à ses partenaires et quelquefois c'est pas concrétisé. Donc,
mais ça se fait, mon cher Eric, ça se fait, ouais, ça s'appelle expected assist.
D'ailleurs, on va l'utiliser beaucoup plus désormais, les expected assist.
Non, mais Eric a raison, d'ailleurs, effectivement.
C'est dans les expected goals, du coup, parce que ça rentre en compte aussi. Parce que quand premier ballon, le ballon qu'il donne à Mahrez, je suis persuadé que ça rentre dans le quota final des expected goals sur le match. Quoi.
Oui. Et puis il y a sa capacité effectivement à créer qui n'est pas toujours créditée d'une passe décisive. Après, c'est là aussi sa force à Kevin De Bruyne, c'est qu'il a une régularité dans cette statistique en fait, qui est assez incroyable au fil des saisons, même si, je le répète, cette saison c'est un peu en deçà des standards qu'il a pu montrer, notamment sur les 2 précédentes.
Juste parce que ça me vient en tête quand on évoque son aspect moins décisif, je parle en termes de passes décisives et plus buteur, ça me fait un peu penser à Gundogan la saison dernière à City, qui
est devenu buteur,
était devenu le meilleur buteur toute compétition confondue de City. Mais Kevin De Bruyne, en plus, j'ai envie de dire, il a la qualité technique encore au-dessus d'un Gundogan. Il peut clairement être le meilleur joueur encore plus de City cette saison, Eric.
Alors, moi, je trouve que par rapport à Gundogan est un très bon joueur aussi, qui a été très performant et notamment avec beaucoup de réalisme sur la saison dernière. Et comme tu l'as dit, il a marqué beaucoup de buts. C'était presque étonnant, parce que c'est un garçon quand même qui est un milieu relayeur offensif, mais quand même relayeur. Ce n'est pas un véritable 10 de ce qu'on a connu, même quand il a débuté vraiment en Allemagne au début de sa carrière. Je dirais que De Bruyne, il a un truc supplémentaire pour moi, c'est qu'il a une capacité aussi athlétique supérieure pour courir plus, être capable de faire des courses à plus haute intensité que Gundogan, c'est-à-dire être vraiment un joueur complet. Donc, Voilà, c'est quand tu dois choisir entre Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva et les autres pour faire ton milieu de terrain, franchement, t'as l'embarras du choix. Et c'est vrai que ça ne doit pas être simple, quelquefois, pour Pep Guardiola d'en éliminer quelques-uns.
On n'a pas tous les mêmes problèmes.
Ouais, c'est ça. Tiens, dans ces top flops, en tout cas, de ces joueurs qui nous ont qui cristallisaient un peu les attentes et qui, au final, cristallisent les critiques. Trent Alexander-Arnold dans cette rencontre. Alors, offensivement, ça passe pour Diogo Jota, est une merveille. Hein. La transversale de Robertson, la remise de l'anglais pour l'international portugais, but merveilleux. Mais défensivement, Flora...
on n'est pas surpris. Enfin, je veux dire, on connaît Trent Alexander-Arnold pour être un super passeur qu'il est. Enfin, je veux dire, ses passes décisives, au-delà du chiffre, elles sont toutes ou presque magnifiques en fait.
C'est vrai,
à chaque fois. Je veux dire, il y a une vraie beauté du geste dans ce qu'il fait. Maintenant, c'est pas un secret que de dire que défensivement, ce n'est pas un très bon défenseur. Mais reste à savoir ce qu'on lui demande en fait, Alexander-Arnold. C'est-à-dire qu'il y a cette position de latéral parce que Liverpool joue dans une défense à 4, donc il a pas cette position de piston qu'il pourrait avoir. S'il jouait plus haut, il est vraiment latéral. Donc il y a vraiment ce côté défensif qui est quand même important, mais en même temps, les latéraux ont un rôle un petit peu différent dans le foot moderne aujourd'hui. Donc on leur demande justement cet apport offensif. Klopp lui demande encore plus cet aspect offensif parce qu'il lui demande en plus de repiquer parfois dans l'axe, de venir se mêler au jeu, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses à assimiler quand en plus il doit se dire c'est vrai que derrière il y a quand même des mecs qui peuvent le prendre dans le dos, etc. Il y a du monde, et encore plus contre City où il y a des joueurs plein de vitesse sur le côté, et notamment Sterling, forcément ça va très vite.
Alors je prolonge le propos de Flora, Eric Roy, et avec une question très simple sur Trent Alexander-Arnold, quoi qu'elle n'est pas si simple pour la réponse. Aujourd'hui, si Trent Alexander... C'est pour ça qu'on vous la pose, Eric. Si Trent Alexander-Arnold est si faible, utilisons le terme, défensivement, c'est parce que lui, naturellement, est faible défensivement, ou c'est le système de club qui le rend faible défensivement?
Moi, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'il a mis un petit peu face à ses limites hier défensivement, c'est notamment... l'expression collective et le travail de Guardiola en face. Parce que le problème qu'il a eu, c'est qu'il a souvent fait face avec un garçon comme Cancelo, qui était pratiquement souvent à la même hauteur que lui, positionné comme un ailier très très haut, qui faisait des appels dans son dos. On l'a vu 2-3 fois être alerté par ses partenaires dans le dos d'Alexander-Arnold. Alors lui, il avait en plus Foden, qui était à l'intérieur du jeu, comme Cancelo était très haut contre la ligne. Donc c'était difficile pour lui de gérer les deux. Donc, il s'en est sorti comme il a pu. Alors, c'est vrai qu'il a été en difficulté. Après, Alexander-Arnold, moi, c'est un joueur délicieux, un joueur que j'adore, un joueur que je prendrai tout le temps dans mon équipe. Après, effectivement, quand on est face à des grands joueurs en face, il y a aussi, il ne faut jamais oublier ça, quand on est un défenseur, c'est le rapport de force. Tu as beaucoup plus de possibilités d'être en difficulté quand tu retrouves en face de toi Cancelo dans le couloir et Foden, que quand tu retrouves peut-être les joueurs de West Ham. Ah, pardon, ça n'est pas les joueurs de West Ham, on va prendre un autre exemple.
Vous êtes comme ça, Eric Roy, bravo. Non, mais pardon, je prolonge malgré tout votre propos parce que, mais tiens, vous taquinez sur West Ham, mais je pourrais prendre West Ham comme d'autres clubs où on a vu aussi Trent Alexander-Arnold être aussi un petit peu en difficulté. Mais tiens, lors du Liverpool-Watford, il n'y a pas longtemps, certes, il y avait eu des victoires face à Watford, mais sur son côté, il avait été un petit peu pris de vitesse aussi. Face à West Ham, on l'avait vu lors de la défaite à Londres, 3-2, et dans d'autres rencontres aussi. Mais Trent Alexander-Arnold, c'est pas que contre les gros que ça lui arrive, ces difficultés, malgré tout.
Ouais, mais après, pour abonder alors un peu dans ton sens, il est évident aussi que tout dépend de ce que son entraîneur lui demande. Et je pense que Jürgen Klopp, il lui demande de ne pas s'économiser et il préfère qu'il aille faire 10 centres par mi-temps plutôt qu'il en fasse que 1 ou 2 et que et du coup, il boucle bien son couloir. Je pense sincèrement que le rapport entre ce qu'il peut apporter offensivement et les faiblesses défensives qui peuvent apparaître ponctuellement chez lui, il est largement en faveur de ce qu'il peut apporter. Et on le voit sur le premier but, c'est les deux latéraux. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un centre de Robertson qui est repris au deuxième poteau. Enfin, c'est une transversale de Robertson au deuxième poteau qui est repris par Alexander-Arnold. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as les deux latéraux qui ont forcément la carte de permis de jouer offensivement quand ils le sentent à tout moment. Donc ça veut dire que normalement, collectivement, l'entraîneur met en place des compensations pour que ces joueurs soient libérés offensivement et qu'ils apportent quelque chose dans l'animation offensive de l'équipe. Donc après, derrière, si effectivement il y a un repli qui est un peu tardif, voilà, c'est pas forcément non plus de son ressort, et c'est plus un ressort collectif que doit mettre en place les Reds.
Ouais, et puis enfin, faut pas oublier que ça fait plusieurs années maintenant, et nous les premiers, où on loue justement l'apport offensif des latéraux à Liverpool, parce que offensivement, évidemment, que ça apporte un vrai plus, et Jürgen Klopp l'a très vite compris, qu'il y a les qualités, que ce soit et chez Alexander-Arnold et chez Robertson des deux côtés, pour avoir cet apport offensif supplémentaire et avoir ces excellents ballons pour Salah, Mané, Jota et compagnie. On peut pas demander aujourd'hui à un joueur de toute façon d'être aussi complet offensivement que défensivement. Il faut quand même se rendre compte des efforts à répétition qui sont faits sur le bord de la touche par les deux et par tous les latéraux. Il y a des latéraux dans d'autres clubs qui vont être excellents défensivement et qui vont avoir zéro apport offensif. Donc après, ça dépend, comme tu as dit, Eric, ça dépend ce que demande Klopp. Et clairement, il leur demande d'être offensif. Donc on ne peut pas non plus.
Pour confirmer ce que tu dis, Flora, il n'y a qu'à, par exemple, faire une étude, on va dire, des deux joueurs qui sont potentiellement les titulaires de l'équipe nationale. Ils étaient face à face. Alors, pas face à face parce que. Ils sont tous les deux à droite, un à City, c'est Kyle Walker, et Alexander-Arnold de l'autre côté, à Liverpool. Donc, je veux dire, les deux ont deux profils complètement différents. Un est très, très fort physiquement, c'est carrément un dragster, et certainement un des défenseurs les plus rapides de la Première Ligue, qui est dur dans l'impact et tout ça. Lui, normalement, est plus fort défensivement, l'autre est meilleur offensivement. Ça n'a pas empêché Kyle Walker de faire, quelque part, d'avoir oublié Sadio Mané sur le deuxième but et d'avoir... un placement hasardeux. La problématique, c'est toujours pareil, le rapport de force, quand vous avez des grandes équipes en face de vous, vous êtes un peu plus dans la difficulté parce qu'à un moment donné, il y a des éclairs de génie, il y a une passe géniale de Salah qui met en difficulté défensivement Kyle Walker, et peut-être contre une autre équipe, cette passe, elle ne serait jamais venue et on n'aurait jamais vu qu'il aurait été potentiellement mal placé, quoi.
C'est pas faux, effectivement. Et au final, ça a permis à Liverpool de marquer, à City également, dans ce 2-2 formidable. On continue d'en parler de cette rencontre. Avant ça, on vous remercie, Eric, d'avoir fait ce petit passage dans PL Zone, le podcast. Grand
plaisir,
merci à
vous,
Eric Roy. Vraiment.
Quand vous voulez. Hein.
Ah oui, et surtout pour parler des grands matchs.
Je suis votre obligé.
Et encore plus pour parler des...
Même de parler de West Ham, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci, je suis avec grand plaisir.
Et je sais que vous êtes un grand fan de West Ham. Je sais
un grand fan de Bowen et d'Antonio.
Voilà, surtout Michel Antonio, je sais que vous l'adorez, effectivement. Grand merci à vous, Eric, voilà. En tout cas, pour votre passage dans PL Zone, le podcast. Avec vous, Loïc, Flora, on continue d'en parler de cette rencontre avec une question très simple au final. Qui est le grand gagnant de cette partie, au final, de ce 2-2, avec ce seul point pris? Avant de vous entendre, messieurs, dames, Kevin De Bruyne, qui répond à la question, le Belge, après la rencontre.
Ouais, je pense que la déception, c'est qu'on n'a pas gagné aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a très, très bien joué. Je pense qu'on mérite de gagner. Mais ouais, on n'a pas marqué assez aujourd'hui. Et ça, c'est la seule chose qui n'était pas à 100%. Mais je pense pour le reste, l'équipe a très bien fait, attaquement et même défensivement. On n'a pas trop donné à eux, mais on sait, c'est sûr, ils ont de qualité. Et je pense que le programme... Et la qualité de la compétition, elle est très, très dure. D'abord, les matchs, ils viennent vite et on joue déjà mercredi. D'abord, on doit se reposer et être prêt pour ça.
Ce sera le match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Flora, la patate chaude pour vous. Qui est le grand gagnant ou perdant de cette rencontre?
Liverpool, mais clairement.
Qui est le
grand gagnant?
Avec ce point près à l'extérieur.
Bien sûr. La physionomie du match qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que City marque rapidement, Liverpool arrive à revenir, mais on sent que Liverpool est quand même un petit peu en deçà. Et effectivement, il y a eu toutes ces opportunités pour City. Le but refusé pour Harry Sterling, la tentative de Mahrez à la toute fin qui est juste incroyable. Enfin, et quand on voit ça, on se dit, et en plus, ils vont prendre un point à l'Etihad. Alors certes, d'un point de vue comptable, Liverpool, du coup, reste derrière City et manque l'occasion justement de passer devant. Après, ils auront ce match face à United pour leur permettre éventuellement de repasser devant City. Mais c'est vrai que c'était l'occasion ou jamais face à l'adversaire direct. Et peut-être que psychologiquement, ça va jouer. Mais quand on regarde le match, clairement, Liverpool, de prendre un point, ils s'en sortent bien. Donc, ils peuvent être, je pense, très heureux de ça.
Même d'ailleurs, si vous me rappeliez, Loïc, en préparant ce podcast, que quand City marque en premier, City gagne normalement.
Oui, c'était le cas depuis le début de saison, tout simplement. Effectivement, City avait pris cette curieuse habitude qui lui rapportait beaucoup de points de gagner tous les matchs lors desquels ils ouvraient le score. Et ça fait 22 matchs, je crois, au total, donc 22 victoires après avoir ouvert le score. Là, c'est la première fois, effectivement, qu'ils n'ont pas réussi à l'emporter après avoir marqué pourtant les premiers. Mais en soi, voilà, ça reste statu quo. Je ne suis pas trop d'accord avec Flora. Ça ne nous arrive pas souvent. Mais pour moi, le match nul, justement, laisse les deux équipes dans la même situation qu'avant la rencontre. Et surtout, en termes voilà, de fin de saison, de calendrier, de compétition à jouer, je pense que City a le lead.
Je vous laisse donc la main pour évoquer justement les calendriers. Rappelez-nous ce qu'il en est par rapport à ces calendriers, que ce soit City ou Liverpool, Loïc.
Bah pour, donc on l'a dit, il y a les matchs de Champions cette saison. Le match retour, City va à l'Atlético de Madrid après avoir gagné 1-0 au match aller. Donc rien n'est fait, malgré le fait que l'Atlético n'ait pas tiré une seule fois au match aller. Liverpool a une avance plus confortable. Ils recevront Benfica, qu'ils ont battu là-bas 3-1. Donc on va dire que potentiellement, les deux peuvent poursuivre leur route en Champions. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est quand on regarde le calendrier de PL, je mets de côté la coupe hein, où ils vont s'affronter encore une fois. Mais tu regardes Manchester City, c'est Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham, Aston Villa. Ouais. Avec un match contre Wolverhampton à déterminer, ils n'ont pas encore réussi à placer. Ça, c'est pour City. Écoutez bien Liverpool, Manchester United, Everton, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton et Wolverhampton. Bon, déjà, tu vois, tu te dis qu'il y en a un qui a un calendrier plus difficile que l'autre. Après, ce sera plutôt, à mon sens, au niveau de la gestion des effectifs, de savoir comment ils arrivent à continuer à jouer sur tous les tableaux. S'ils ne perdent pas de joueurs majeurs, on parlait de De Bruyne tout à l'heure, Alexander-Arnold, tous ces gars-là qui sont vraiment capitaux dans la dernière ligne droite. Et de savoir s'ils vont réussir à maintenir leur niveau de performance qui est affiché jusqu'ici. Mais à mon sens, Manchester City, avec ce match nul, même si effectivement, comme le rappelait Flora, c'est à domicile, fait quand même la bonne affaire dans cette course à deux.
Parce que c'est vrai que quand on voit le calendrier de City, à part Watford qui joue le maintien, qui a encore un enjeu, on va dire, pour le maintien, les autres équipes, même West Ham, au final, est décroché, ce sera la 37e journée, mais est décroché pour la Ligue des Champions. Les autres clubs n'ont plus rien à jouer, les adversaires. C'est pour ça que City a un calendrier tranquille, là où Liverpool doit affronter United, donc qui joue la 4e place, Everton le maintien. Il y avait Tottenham aussi la 4e place. Donc on se dit que City a vraiment la voie royale pour le titre.
Pour le coup, je pense que la déception des joueurs de Liverpool, elle vient de là aussi, même si on a vu que City était capable de lâcher des points parfois face à des équipes sans raison aucune.
Contre Palace, 4 points perdus.
Exactement. Et après, peut-être le point clé, et je le dis en toute objectivité pour Liverpool, ça va être ce match face à United, parce que United, avec de toute façon, leur fin de saison, ça va être une catastrophe. Le match face à Liverpool, c'est... un match dans lequel il y a énormément d'ego pour les Red Devils. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent, en cas de victoire, empêcher Liverpool d'être champion à la fin de la saison. Donc ça va compter énormément pour eux, parce que quand il n'y a plus rien à jouer, tout ce qu'ils espèrent, c'est que Liverpool soit champion.
On le rappelle, 20 titres de champion pour United, exactement. 19 pour Liverpool au moment où nous parlons.
Donc le but, c'est évidemment que Liverpool ne revienne pas à hauteur de Manchester United en termes de titres de champion d'Angleterre. Donc ce match-là face à United, il va jouer aussi beaucoup dans la tête des Reds, parce que s'ils le perdent, la fin de saison, ça va être vraiment compliqué de rattraper City, qui, comme tu l'as dit, Loïc, de toute façon, a un calendrier beaucoup plus abordable. Ils ont en fait les clés en main, City, quelque part. Donc, c'est à eux de voir. Et la gestion, on sait que les fins de championnat, il peut se passer plein de choses, surtout s'ils vont loin en Champions, où on sait que l'obsession de Guardiola et de City pour la Champions, de la gagner enfin, va peut-être faire la différence aussi dans la fin de saison.
Et juste, vous évoquiez ce match de Cup, on le rappelle, Liverpool-City, ce sera la semaine prochaine, match demi-finale de Cup qui se déroulera à Wembley. Mais vous l'avez écarté entre guillemets de votre calendrier, enfin de votre planning, c'est quoi? C'est que c'est que un match de cup, donc on le compte pas trop?
Non.
Parce que pour le coup, c'est une demi-finale et c'est un trophée qui peut être pris à l'autre, entre guillemets.
Oui, mais c'est. Comment dire? Il y a tellement d'objectifs en fait dans les saisons de Liverpool et de City, autres finalement que. C'est horrible ça, parce qu'en plus la Coupe d'Angleterre est un trophée
parce que juste je me permets de vous interrompre, Liverpool a gagné la Coupe de la Ligue. Liverpool, pourquoi pas, ils sont un quadruplé potentiel
Bien sûr, mais je pense que si vous demandez à Jürgen Klopp là maintenant, entre les objectifs de Coupe et les objectifs de Champions et de Première Ligue, il n'y a même pas photo. Donc forcément, non, ça compte, parce que encore une fois, ils s'affrontent tous les deux et que jusqu'à la fin de saison, ça va être un mano à mano. Donc forcément, s'ils passent, on verra ce qui se passe après en Champions League. Mais ce que je veux dire, c'est que ça comptera peut-être psychologiquement dans la tête. Et encore, peut-être que l'un et l'autre vont choisir de faire tourner un petit peu sur ces matchs-là.
Moi, je suis d'accord avec toi, Flora.
Ouais.
Non, c'est vrai. À mon sens, c'est comme on parlait de match de boxe tout à l'heure. Pour moi, là, tu rentres dans la partie d'échecs.
Ouais.
Donc là, tu as Liverpool, Klopp et Guardiola qui sont en face à face sur une table avec l'échiquier, tout ça. Et du coup, bah voilà, faut disposer ses pions. Effectivement, je rejoins Flora, je pense que la FA Cup, c'est le dernier de leurs soucis. Ils s'en fichent comme de leur premier crampon. À mon avis, la priorité, c'est le championnat, comme pour toutes les équipes anglaises, c'est toujours comme ça. Mais effectivement, il y a Klopp qui va vouloir impérativement rejoindre United en nombre de titres et Guardiola qui va vouloir sa C1. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir l'impasse. Enfin, l'impasse, le mot est grand, mais disons qu'il y a une compétition qui sera priorisée par rapport à l'autre et qu'effectivement, par rapport aux forces en présence, c'est-à-dire les joueurs disponibles, les joueurs en forme, les joueurs qui sont moins en forme, on verra un turnover et peut-être que il y en a qui se concentrera plus sur le championnat que l'autre ou inversement. Mais de toute façon, c'est quand même très improbable qu'il rafle tout. De toute façon, à un moment donné, il va bien falloir choisir ses combats et la Champions, attention, il y a encore du client. On a vu qu'il y avait le Real qui est bien, mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot. Le Bayern, Villarreal a gagné l'aller, mais bon, on ne sait jamais. Donc là, ça va être compliqué. Et puis, tu le rappelais, Salim, même si le calendrier a l'air plus simple pour City, attention, ils ont perdu des points contre des petits. Il y a Leeds. Moi, c'est surtout Leeds qui m'inquiéterait si j'étais à la place de Guardiola, parce que c'est souvent une équipe. Alors certes, c'est plus Bielsa, c'est Jesse Marsh, mais qui met énormément d'intensité, on le rappelait, qui joue bien au ballon, qui retrouve d'ailleurs son jeu. Et potentiellement, c'est le genre d'équipe qui peut embêter City. Crystal Palace était une équipe dans cette configuration-là, qui joue bien au ballon, il les a embêtés. Donc attention, faudra pas faire d'erreur. Et c'est pour ça que je parlais de partie d'échec, parce que là, il va falloir être malin, plus malin que l'autre.
C'est vrai que Leeds et Lyon, la saison dernière, ils avaient gagné 2-1 à l'Etihad en étant à 10 pendant 45 minutes. Et cette saison, ils en ont pris 6 à l'Etihad aussi, face à City. Donc, ils sont capables de tout face aux Sky Blues. La fin de ce PL Zone, le podcast, épisode 17, autour de ce formidable choc, ce City-Liverpool qui nous a régalé et ce 2-2 entre les deux formations. Merci beaucoup, Flora. Merci Loïc.
Merci à tous.
Un grand merci à Eric Roy qui était également avec nous, Samantha Svec, Tristan Tessier et Julie Deroux derrière la vitre. N'hésitez pas pour vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast, car ce podcast est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme Manuel Rantz, ciao.